Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mets vous face. Il était une fois, quatre mots évocateurs, symboles du pouvoir des contes. Et même quand un conte ne débute pas par « Il était une fois », on perçoit le fumet magique de cette phrase. Les conteurs du monde entier savent nous ensorceler, à l'image du flûtiste d'Amelin ou de Scheherazade, la fille du grand vizir qui raconta mille et une histoires au roi de Perse Shahriar, qu'il aurait volontiers exécuté si elle ne l'avait pas tenue en haleine avec ses contes extraordinaires. Que serait devenu l'humanité sans compte ni compteur? Grâce soit rendue à ceux et celles qui, dans les grottes préhistoriques, eurent l'intuition qu'il était vital de raconter des histoires pour se réchauffer l'âme et se relier les uns aux autres. Depuis la nuit des temps, les contes nous permettent d'accéder à une forme de sagesse, sans moralisme, mais avec une morale subtile de l'histoire qui donne à réfléchir, à rire ou sourire, à rêver, à donner du sens à notre vie. Et parmi nos invités cet après-midi, l'immense conteur Henri Gougaud, mon complice cet après-midi, Éric Libiot. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Henri Gougaud.
Bonjour.
Vous êtes né en 1936 près de Carcassonne. Vous
ben
êtes
oui.
poète, romancier, essayiste, parolier pour Reggiani, Jean Ferrat, Juliette Gréco, immense conteur sur France Inter il y a quelques années et aujourd'hui sur scène. Maître de sagesse populaire, comme l'écrit Philosophie Magazine. Et vous avez publié chez Albin Michel votre autobiographie « J'ai pas fini mon rêve ». Et en fin d'émission, vous nous raconterez quelques histoires tirées de contes de sagesse pour temps perturbé, publiées au Relier Poche. Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en psychologie à l'Université Libre de Bruxelles, cofondateur de l'association Émergence qui finance des projets humanitaires. Et vous publiez avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard « Les folles histoires du sage Nasreddin » avec des dessins de Gaps et c'est publié à l'Iconoclaste et chez Alary. Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour Ali.
Mais que serait une émission consacrée aux contes sur cette antenne sans votre présence?
Merci beaucoup de m'avoir invité surtout.
Vous produisez Barbatruc le dimanche à 17h et chaque semaine vous penchez sur un grand récit jeunesse.
Voilà.
Henri Gougaud, vous écrivez qu'une histoire n'est ni mensonge, ni vérité, ni témoignage, ni leçon. Qu'est-ce qu'un conte dans le vaste nuancier des histoires?
Oh là là, déjà, nous avons quoi, une heure, une semaine?
Oui, on a trois heures devant nous, mon cher Henri Gougaud.
Comment vous dites un conte, quelle est la place du conte, oui, c'est ça? Oui. La place du conte, c'est une place essentielle dans la vie. Les gens ne s'en aperçoivent pas forcément encore maintenant, mais si on se retourne un peu sur nos pas, on s'aperçoit que il y a un grand fleuve qui part probablement de je ne sais quelle préhistoire et qui traverse le temps, traverse les siècles. C'est un grand fleuve porteur de toutes les sagesses du monde, de toutes les histoires du monde, de toutes les manières de vivre possibles. Toute une sagesse qui a été pendant des siècles, des millénaires, purement orale. C'est ça le truc. Purement oral, c'était pas réservé à une classe sociale de lettrés ou de gens qui savaient parfaitement manier la langue. D'ailleurs, les gens du peuple manié la langue souvent mieux que les lettrés. Mais enfin bon, c'est autre chose. Je veux dire que le grand fleuve des contes traverse les siècles, traverse les vies. Et justement, de quoi il parle? C'est ça. De quoi il parle? Pas du monde. Il parle pas du monde, il parle de la vie. Et moi, c'est grâce aux contes qui m'ont appris beaucoup de choses. C'est grâce aux contes que j'ai toujours fait une grande différence entre le monde et la vie. Le monde, c'est le lieu où on est. Hein, si vous voulez, pour prendre une métaphore, le monde, c'est la bouteille et la vie, c'est le vin. Quoi, le vin prend la couleur de la bouteille. Mais enfin, bon, bref, voyez le truc. Je fais une grande différence parce que bon, il y a l'intelligence rationnelle. Très bien, on en a besoin. Il faut bon. Mais il y a l'intelligence sensible à côté, et c'est ça la vie, c'est l'intelligence sensible. Et les contes ne parlent que de la vie. C'est-à-dire, tous les contes, là, vous m'avez lancé imprudemment, parce que moi, je peux être parti pour une heure.
J'aimerais vous citer l'écrivaine Anne-Marie Gara. Le conte est tout sauf infantile et niais. Le conte produit des formes de récits fondamentaux, anthropologiques. Il nous enseigne sur nous-mêmes. À ce titre, le conte est le genre absolu qui fonde l'humanité. Il faut le prendre au sérieux. Pourquoi le conte, Henri Gougaud, est-il un genre majeur qu'il faut prendre au sérieux ?
Tout simplement parce que pendant des siècles ou des millénaires, le conte a été la littérature des illettrés. La littérature des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et qui pourtant, alors parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, ils étaient estimés inférieurs aux lettrés, mais c'est pas vrai du tout, ils l'étaient pas. Mais ils l'étaient pas. Les contes, c'est la culture des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui avaient une culture sensible, ils connaissaient la vie. Ils connaissaient pas bien le monde, ils savaient pas bien se tenir dans le monde, mais dans la vie, ils connaissaient. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les contes sont devenus de la littérature pour les enfants, parce que vous savez, c'était au départ la littérature des illettrés. Bon, méprisable à ce titre par les lettrés, parce que les lettrés se sont de tout temps sentis supérieurs aux autres. Bon, méprisable. Et puis les hommes ont appris à lire avant les femmes. Et donc, les contes sont devenus des histoires de bonnes femmes. Voilà, des trucs encore de quoi les... Et puis, les femmes ont appris à lire aussi, et donc, restaient plus que les enfants comme ignorants. Et donc, c'est devenu la littérature pour les enfants. Mais ce n'est pas de la littérature pour les enfants. Le conte, c'est comme si vous disiez que les pommes, parce que c'est bon pour les enfants, les vieillards ne pouvaient pas manger.
Dorothée Barba.
Prendre les contes au sérieux, dites-vous. D'ailleurs, effectivement, les contes, ça n'est pas que pour les enfants, mais on devrait prendre plus les enfants au sérieux. Quand ils jouent, les enfants, ils sont toujours très sérieux. Et c'est la première démarche. Ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs qu'on dit beaucoup de jeunesse, eux disent toujours qu'ils écrivent pour les êtres humains, qu'ils écrivent pour tout le monde. Lewis Carroll est le meilleur exemple. Alice au Pays des Merveilles, ça n'est pas un roman pour les enfants, c'est un roman. Raconter des histoires, ça devrait être pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi j'invite les auditeurs et les auditrices à faire un exercice très amusant avec leurs enfants. Et imaginez un conte ensemble, comme un cadavre exquis. Vous commencez, l'enfant poursuit, vous reprenez l'histoire. Ça montrera bien que c'est pour tout le monde, les contes, et ça émeut tout le monde et ça touche tout le monde.
Et vous dites, Henri Gougaud, que les contes, c'est de la nourriture pour tous les âges.
Oui, alors voilà, ça c'est mystérieux. Parce qu'on s'est beaucoup posé la question, on a eu beaucoup de réponses, de savoir, quand même, ces histoires invraisemblables, auxquelles personne ne peut croire, qui ne sont même pas écrites quelque part, qu'on a hérité de son grand-père ou sa grand-mère, qui ne cessent de circuler, qui ne sont rien du tout, mais comment elles ont fait pour traverser les millénaires? Je veux dire que par exemple, je crois que c'est Cendrillon, dont la première mention écrite, c'est en Chine au 7e siècle. Voilà, vous voyez, Cendrillon, elle est partie de la Chine au 7e siècle, et encore, elle a été écrite parce qu'on avait peur de la perdre. Donc, elle est partie comme ça de Chine, elle a traversé les mers, les océans, les montagnes, les révolutions, les pestes, tranquille, elle est arrivée là.
Avec ses souliers de verre.
Mais comment elle a fait? Une époque où, enfin, je veux dire que... Il y a tellement d'œuvres réputées immortelles en leur temps qui se perdent. Et ça, des personnages comme le petit Chaperon Rouge ou Cendrillon, ils ne se sont pas perdus. Pourquoi?
Mais c'est peut-être parce que les contes sont une source inépuisable d'où coulent les grands questionnements de l'être humain, toutes les vérités fondamentales qui fondent notre humanité et notre inhumanité sont inscrites dans le conte.
Le conte, comme je vous disais, ne parle que de la vie, c'est-à-dire de la vie, de la mort, de la naissance, de l'amour, de la haine. Voilà, c'est les grands thèmes du conte. Et au fond, s'il y a un enseignement, disons, scolaire, La plupart des contes apprennent comment vivre quand on les raconte aux enfants. Raconter le petit poussé à un petit garçon, c'est d'une certaine manière lui dire, tu sais, la vie, ça va pas être facile, quoi. Ça va être dur, tu vas rencontrer des hommes. Mais si tu es assez astucieux, si tu es assez courageux, tu t'en sortiras. Voilà.
Ilios Kotsou.
Oui, alors moi, je bois les paroles d'Ange Gogo que j'apprécie énormément. Et donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup nourri, je pense, à l'homme, à la vie inexplicable et tellement d'autres choses. Et je suis tout à fait d'accord, le conte c'est comme un langage universel, comme la musique en fait.
Ouais,
et donc
oui,
ce langage universel, il nous connecte je crois, il nous connecte quelque part. Et puis d'une part on peut partager les grandes questions, comme le dit Henri Gougaud, les grandes questions de la vie en fait, qui sont étonnamment toujours les mêmes. Si on regarde Nasreddin au XIIIe siècle, et nous aujourd'hui, on se pose étonnamment toujours les mêmes questions. Et cette sagesse universelle qui traverse toutes les formes, que ce soit les mystiques, les philosophies ou toutes les religions, ont utilisé les contes et les paraboles pour faire passer des messages de manière tellement plus directe que, voilà, que les grandes paroles.
Vous savez, si on prend... quatre des plus grands hommes qui ont marqué l'histoire humaine, je dis Jésus, Bouddha, Socrate, ils écrivaient pas, ils n'ont rien écrit, ils ont raconté.
Et au fond, Henri Gougaud, quel est le fil qui relie les histoires que vous collectiez de la bouche des paysans de la Haute-Vallée de l'Aude, les contes burkinabés, les contes sioux, les contes des mille et nuits, les histoires du sage Nasreddin? C'est quoi le fil conducteur qui relie tous ces contes du monde entier?
Ouais, ben j'ai pas de réponse précise. Je veux dire, moi j'ai été durablement captivé par ce constat que à quel point les contes ont circulé, à quel point ces histoires ont été partagées partout, fasciné par le fait de retrouver des fragments de l'Odyssée d'Homère dans le Caucase, vous voyez, un peu partout. Moi, ce qui me fascine, c'est l'universalité des contes. Les contes sont universels. Comme si la première chose que faisaient deux individus qui se rencontrent et qui sont étrangers l'un à l'autre, c'est de se raconter une histoire.
Voilà. Dorothée Barba.
Ils sont universels, en effet. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont aussi... Ils ont les deux pieds dans le présent, souvent, les contes. Ça permet de se poser des questions d'aujourd'hui. Je pense à La Belle au bois dormant, au hasard. Un enfant à qui on raconte cette histoire en 2021 dira... Mais la princesse, on lui a demandé son avis avant de l'embrasser pendant qu'elle dort. Et paf, on parle de consentement avec les enfants. Alors, elle ne dort pas dans toutes les versions, d'ailleurs. Il y a certaines versions de La Belle au bois dormant où elle est réveillée au moment où elle et le prince s'embrassent. Là, ok. Mais voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, qui est amusant, qui est émouvant avec les contes.
Oui, oui.
C'est qu'ils sont universels dans le temps et dans l'espace.
Mais il y a quand même dans le baiser de La Belle au bois dormant, il y a une dimension symbolique que je voudrais pas qu'on perde quand même.
Bien sûr.
Donner le baiser.
Le symbole n'empêche pas de s'interroger quand même.
Donner le baiser, c'est donner le souffle, c'est-à-dire la vie.
Mm-hmm. Question de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, bonjour à vos invités, Ali.
Bonjour.
Une question, on va rester dans le présent là qu'évoquait à l'instant Dorothée Barba. Moi, je m'interrogeais à ceux qui, dans 100 ans, liront peut-être un conte écrit en 2021. Quelle en serait l'histoire? Alors, je ne sais pas, celle d'un pangolin, d'une humanité confinée, mais quel ressort en ferait un texte immortel, du moins jusqu'à la fin du troisième millénaire, déjà?
C'est intéressant, ça, Henri Gougaud.
Je ne pense pas qu'il y ait des contes que l'on puisse dater du 20e ou du 21e siècle, parce que on oublie quand même une dimension dans la transmission de ces histoires sans auteur, c'est le temps. Il faut le conte doit avoir résisté au temps pour devenir nourrissant. Et donc, on peut écrire des contes au 20e ou 21e siècle, d'ailleurs, Le Petit Prince, par exemple, mais on verra dans 1000 ans.
Il raconte quand même l'époque d'où ils viennent, les contes. Je pense à La Petite Fille aux Allumettes d'Andersen. Ça raconte une grande pauvreté dans le Danemark d'Andersen de l'époque.
Alors, il faut définir ce qu'on entend par conte. Parce que la Petite Marchande d'Allumettes, c'est un conte d'auteur. C'est pas un conte traditionnel. Moi, je m'intéresse surtout, et je crois, les Nasreddin, tout ça, c'est la même chose. Les fables de La Fontaine, Ésope, qui n'a jamais existé, enfin bref. Il s'agit des contes traditionnels, des histoires qui circulent de bouche à oreille.
Donc voilà. Vous excluez Andersen de cette catégorie, si j'ose dire.
Oh ben, moi, oui. J'exclus personne. Mais c'est lui qui
s'est exclu tout seul. Enfin, vous avez raison.
Alors, d'autant, il s'est quand même inspiré de contes traditionnels. Mais voilà, c'est des contes dont il est l'auteur.
Bien sûr.
Moi, tous les contes que j'ai retranscrits dans les livres, je les ai écrits. C'est-à-dire, je leur ai donné une forme, mais je ne peux pas dire que j'en suis l'auteur.
Ilios Kotsou.
Alors, je dirais la même chose qu'Henri Gougaud.
Mais on est d'accord sur
tout. Ils sont toujours d'accord.
Si on pense à Nasreddin, c'est un personnage incroyable. On en parle en Afghanistan, en Azerbaïdjan, en Albanie, en Bosnie, en Inde. Et si on pense au caractère universel, c'est parce qu'il parle de ces grandes questions qui sont toujours vivantes aujourd'hui.
Oui.
Je vous prends un exemple. L'hypocrisie du pouvoir. Alors on dit qu'un jour Nasreddin se présente devant le sultan et lui dit « Majesté, j'aimerais tant être à votre service et avoir un titre. Vous qui êtes tout puissant, nommez-moi vizir. » « Ah Nasreddin, dit le sultan, mais malheureusement tous mes postes sont pourvus. Je ne vois pas quel titre je pourrais te donner. » Alors Nasreddin lui répond « Vous pourriez me nommer vizir en charge des éléphants. » « Voyons Nasreddin, tu sais bien qu'il n'y a pas d'éléphant dans mon royaume. Quelle importance, Majesté. Vous avez bien un vizir de la justice, non ?»
Et il faut rappeler que Nasreddin est né au XIIIe siècle. Il est né, on ne sait pas trop, Ilios Kotsou, en Turquie, en Mongolie, en Inde ou en Iran. Et Nasreddin, c'est un sage ou un fou, selon les traditions, qui observe nos comportements et nos imperfections.
Un sage et un fou. Et on dit qu'il a vécu dans la même région et au même moment qu'un autre grand mystique, qui est le poète Rumi, qui lui aussi racontait des histoires incroyables. Et donc je crois qu'au-delà du personnage historique, c'est un archétype qui pourfend le conformisme, défend la liberté, s'oppose aux injustices sociales et se moque des petits et des grands travers de son époque. Et d'ailleurs de toutes les époques en fait, et c'est en ça, comme le dit Henri Gougaud, qu'il transcende les frontières et qu'il transcende les époques aussi.
Pourquoi aimez-vous Nasreddin, Henri Gougaud ?
Pour son universalité, parce que vous retrouvez Nasreddin, des versions de Nasreddin dans les histoires belges, par exemple. On les retrouve partout. Voilà.
Alors, les contes se transmettent oralement de génération en génération. Le conteur est-il aussi important que le conte ?
Bien sûr que non. Le conteur n'est pas très important. L'important, c'est que l'histoire soit transmise. C'est que l'histoire entre à l'intérieur des gens, qu'elle y fasse son travail, voilà, c'est une nourriture. Le conte est pour moi comparable à un aliment, alors je ne sais pas comment le corps fait pour transformer la matière que j'avale en énergie, mais il sait le faire. Eh bien, je crois que notre psychisme fait la même chose avec les contes. Je ne sais pas comment il fait pour transformer ces petites histoires en nourriture de l'esprit. Mais il le fait.
Question d'Éric Thibieu, je sais que vous admirez Henri Gougaud.
Oui, juste petite remarque, je l'admire tellement que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, pour avoir écouté énormément de conteurs, je pense que le conteur est très important parce que j'en ai écouté beaucoup, il y en a qui m'ont fait vibrer, il y en a qui m'ont laissé totalement indifférent. Il y a la parole, le geste, la façon de bouger, la façon de raconter qui est quand même très importante, quand même. Donc le conteur est aussi très important et on l'entend quand vous racontez des histoires, cher Henri. Mais moi je voulais savoir, puisque vous parliez tout à l'heure d'universalité, ça voudrait donc dire que les contes, par-delà les différences culturelles, identitaires, géographiques, il y aurait un imaginaire commun entre tous les hommes et toutes les femmes qui habitent la Terre.
Alors moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse de me dire que de retrouver une histoire d'amour chinoise qui se passe il y a 2000 ans, et on a le même cœur, on a les mêmes battements de cœur, on a les mêmes oreilles, les mêmes yeux, enfin les mêmes sens. On a quelque chose de fondamentalement semblable que le conte nourrit.
Je rejoins Éric Lébio, le conteur ou la conteuse compte en effet énormément. On a tous en tête des souvenirs d'enfance de notre grand-mère qui nous racontait des histoires. La voix est importante.
Mais moi, j'aimerais rendre grâce à l'une des veillées les plus extraordinaires de mon enfance, le directeur de la colonie de vacances d'Antichamps de Frontigne dans les Pyrénées en 1986 ou 1987, Michel Auride, je le cite, qui à la manière de Scheherazade nous a raconté des contes des Pyrénées. C'est une des soirées les plus mémorables de ma vie. Le conteur est, pour une fois, je serais d'accord avec Éric Lébio, contre vous, Henri Gougo, le conteur compte.
Non, oui, d'accord. Oui, mais je suis d'accord. Mais il y a quand même un truc. Moi, j'ai toujours considéré le plus grand conteur ou la plus grande conteuse du monde. Pour moi, c'est une femme qui raconte une histoire à son fils pour l'endormir. C'est là que se joue la vie, quoi. Hein, et c'est voilà, c'est ça. Je veux dire que il me semble que le travail, si c'est un travail, je trouve pas d'autre mot là sur le coup, de raconter une histoire. Ben c'est ça doit aller avec une grande humilité. Je veux dire, il faut que le conte passe devant le conteur.
Ce qui est toujours fascinant quand on raconte une histoire à un enfant, ça m'est arrivé très récemment avec mon fils de 4 ans, c'est je lui raconte une histoire avant de se coucher, et puis voilà, on éteint la lumière, on dort, et puis un quart d'heure après, il me rappelle avec une question très précise sur l'histoire, et j'imagine dans sa petite tête d'enfant de 4 ans tout ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à cette question. Le chemin que le conte a parcouru, c'est absolument sublime.
C'est la maturation psychique dont parlait Henri Gougeux à l'instant. Stéphanie Valois et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Céline Collinet. La réalisation est signée Claire Destacan et la programmation musicale Muriel Pérez. Et je vous propose d'écouter Pétula Clark, Lagadou, une chanson signée Gainsbourg.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans Lagadou, 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 Lagadou. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons Lagadou, 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 Lagadou. Pas Lagadou, 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 Lagadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans Lagadou, 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 Lagadou. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons Lagadou, 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 Lagadou.
Pétula Clark, Lagadou.
Grande-Bretagne, une avocate veut faire interdire la belle au bois dormant parce que le baiser n'est pas consenti.
Grand bien vous fasse.
C'est un conte pour enfants peut-être con, mais c'est un conte. C'est pas un principe de réalité.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à la sagesse des contes en compagnie du conteur Henri Gougaud, du chercheur en psychologie Ilios Kotsou et avec notre consoeur Dorothée Barba. Quels sont les contes qui vous ont marqué? Peut-être les histoires qui mettaient en scène un loup quand vous étiez enfant.
Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge et qui ne faisait jamais attention où elle mettait les pieds.
Une louve se promène dans la forêt et elle tombe sur une cabane.
Un petit chaperon rouge a croqué. C'est bien ce que se disait le loup.
Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie ?
C'est le loup.
Les loups l'avaient repéré. Et l'un d'entre eux décida d'aller à sa rencontre avec Ruse.
Hé, chaperon rouge, t'as pas genre un 06 ?
Non, je dois apporter des galettes à ma grand-mère.
Genre, t'es précis ?
Je dois apporter des galettes à ma grand-mère.
Les loups, c'est dans la forêt. Jamais été dans la forêt. Moi, j'y ai été, puis... Et puis, j'ai jamais vu de loup.
C'est le loup qui arrive à la maison de la grand-mère. Il mange la grand-mère.
Le petit chaperon rouge arriva à son tour et frappa à la porte.
Tirez sur la serviette du Dizzy Code. Entrez.
Sa grand-mère, elle n'était plus dans le lit. C'était le loup qui s'était déguisé. Le petit chaperon rouge, il lui dit: pourquoi tu as de longues oreilles? C'est pour mieux t'écouter.
Parce que t'as des oreilles écoutées. Non, mais non, c'est pour mieux t'entendre, en fait.
Pourquoi t'as de grandes dents? C'est pour mieux te manger.
Mon enfant.
Le chasseur rentre dans la maison, saute sur le loup. Avec son couteau, lui ouvre le ventre. Et heureusement, la grand-mère était là, sort du ventre du loup et est saine et sauve. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Bon, on va faire un gros dodo maintenant. Hein? Allez.
Medley signé Stéphanie Texier. Henri Gougaud, les histoires de loups sont liées à la mort et à la peur qu'elle engendre. Hein?
L'histoire de loup?
Ou les histoires de loups?
Oui, le loup est une figure de la peur, oui. Oui, d'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui... les contes permettent, entre autres, ça, de nommer les choses. Parce qu'une peur qui n'est pas nommée, c'est de l'angoisse, et c'est pire que... Voilà. Là, en étant nommé, le danger est identifié.
La mort, c'est l'un des motifs récurrents de la plupart des contes du monde entier.
Mais comme l'amour. C'est inséparable de la vie. Je veux dire, je vous dis, les contes parlent des grandes choses, des choses importantes de la vie, des choses inévitables de la vie, et des choses qui, effectivement, nous sont communes à tous. Ah, non, quand même. Tous les humains de cette planète ont quand même en commun un cœur qui bat, non? Et voilà, et une tête qui a peur de mourir aussi. De tous, on partage tous ça. Et finalement, c'est l'essentiel.
Et les contes sont peut-être nés dans des grottes préhistoriques, quand l'angoisse du lendemain dominait, quelqu'un s'est levé et a dit « Oui, le soleil reviendra, et je vais vous dire pourquoi. » Et cette personne se met à raconter une histoire pour conjurer la mort et la peur.
Oui, j'ai imaginé ça, ce que vous dites, parce que, bon, pour imaginer le... d'où peuvent sortir. Je crois que c'est où ça, quelqu'un qui avait tellement peur qu'il a fallu qu'il invente une histoire pour ça, voilà, et il l'a partagé, ou une mère qui entend pleurer son enfant, qui le berce et qui invente quelque chose, quoi. J'aime bien imaginer une femme à la source du fleuve des contes.
Dorothée Barba, ce qui vous fascine dans les contes, c'est leur infini niveau de lecture. Un conte peut être apprécié par un enfant, un vieillard, un érudit comme Umberto Eco ou un illettré.
Exactement.
C'est ça qui est fascinant.
Les contes, c'est pour les enfants et pour tous ceux, toutes celles qui ont été des enfants un jour. C'est ça qui est fascinant. Mettre des mots sur la peur, disiez-vous, Henri Gougaud, ça aide aussi à l'apprivoiser.
Et c'est ça qui est...
Souvent, on se dit, c'est dingue, tous ces contes qui terminent mal, des histoires atroces, des histoires de mort. Pourquoi est-ce qu'on raconte de telles horreurs aux enfants? Mais parce qu'ils ont peur, les enfants, et que leur peur existe dans ces histoires et ça la rend plus réelle, ça la rend moins énorme, moins impressionnante. Mettre des mots sur la peur, c'est vraiment une manière de l'apprivoiser.
Oui, bien sûr. Et là, et bon, dans le contexte, parce que les contes ont quand même été, je sais pas si, ont quand même été largement récupérés par des idéologies, par l'Église, tout ça, voilà. C'est pour ça que c'est sous l'influence de l'Église, ces contes d'avertissement, comme on disait.
D'édification.
Oui, voilà, qu'on a identifié le loup à l'homme. À l'homme. Et le comte a une. Et qui s'adresse à une jeune fille,
le petit
à une adolescente.
Rouge, voilà, méfie-toi de la forêt. Hein.
Méfie-toi, la fille qui a vu le loup, dans les expressions populaires, c'est la fille qui a connu les hommes. Il y en a une expression comme ça. La fille qui a vu le loup qui pète sur la pierre en bois. Voilà, c'est une expression paysanne angevine qui me ravit. En fait, ça dit la même chose.
Paul nous écrit « Merci à Monsieur Gougo pour un conte que j'ai entendu raconter sur France Inter il y a longtemps et que je raconte très volontiers quand je rencontre un autre propriétaire de chien et que nos chiens se reniflent le derrière. » Est-ce que vous vous souvenez de ce conte ou pas, non?
Oui, juste un petit conte rigolo. Comme toutes les espèces vivantes, les chiens, un jour, se sont dit qu'il fallait qu'ils aient un roi, quoi. Parce que, voilà, avoir un roi quand on est un peuple comme ça, ça pose le peuple, voilà. Et donc, ils se sont dit, mais comment on va faire? Il faut élire un roi. Et donc, c'est la première campagne présidentielle royaliste qui a eu lieu sur Terre. Les candidats à la royauté ont fait leur discours. Bref, ils se sont disputés, je vous la fais courte, ils savaient plus comment faire. Et il y en a un qui a eu une idée formidable, qui a été adoptée vers tout le monde, qui était, on va élire comme roi le chien qui s'embonne sous la queue.
Et depuis, ça explique tout.
Et depuis, il cherche. Je comprends mieux certaines scènes vues dans les rues parisiennes. Ilias Kotsou, vous publiez avec Mathieu Ricard Les folles histoires du sage Nasreddin. On l'a dit tout à l'heure, le sage Nasreddin, ce sont des récits qui sont nés au XIIIe siècle. Nasreddin qui observe nos comportements, nos imperfections. Les histoires de Nasreddin ont voyagé à travers le temps et le monde, de la Turquie à la Mongolie, de l'Inde à l'Iran. C'est un homme ordinaire, ce Nasreddin, qui a les préoccupations de tout le monde, hein, c'est ça.
Il a tout à fait des préoccupations universelles, en fait. Ces grands enjeux de l'existence dont parle Henri Gougaud, l'amour, la mort, le bonheur, comment vivre sous le regard des autres. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Henri Gougaud, est-ce que le conteur est important dans Nasreddin? On pourrait dire que ce qui est important dans le conte, c'est un peu dans l'esprit de celui qui raconte, ou dans sa bouche, comme celle d'Henri Gougaud qui parle tellement bien, un peu dans l'oreille de la personne qui écoute, et beaucoup entre les deux. Et c'est un peu comme une formule magique où les ingrédients sont moins importants que le mélange. Et donc c'est en ça peut-être qu'il y a quelque chose d'universel dans ces histoires-là.
Alors derrière l'espiègle Nasreddin se cache un moraliste, un philosophe, un libérateur de nos prisons intérieures. Et derrière l'humour de ses contes, on retrouve une grande profondeur.
Alors on trouve une grande profondeur et en même temps, ce qu'il a de particulier, c'est que Nasreddin ne fait pas la morale en donnant des réponses. Il ne fait que poser des questions. Et en fait, il secoue nos certitudes. Et dans une époque actuelle, comme on le voit aujourd'hui, les réseaux sociaux, le complotisme, où on a toujours raison, en fait, il faut être dans un camp et avoir raison. Nasreddin, en fait, il nous pose surtout des questions. Et je trouve que c'est ce qu'il a de libérateur et d'important.
Alors Nasreddin nous apprend à regarder le monde de façon inhabituelle. Il nous invite à changer de perspective. Hein.
Oui, je crois que c'est vraiment la grande leçon de Nasreddin, c'est cette faculté de changer de regard. Et donc, regarder les choses différemment. On pourrait se dire que la multiplicité des regards, c'est certainement ce dont on a besoin dans ce contexte, quoi. On en a toujours eu besoin. Puisque la réalité, le monde change tout le temps. Et lorsqu'on a la bonne réponse, le dogme, la bonne réponse, elle est vite périmée, même si c'est une sagesse. Alors qu'avoir un regard multiple, en fait, nous permet de nous adapter au contexte qui est sans cesse changeant de l'existence. Et dans ce sens, les contes et ceux de Nasreddin, c'est une sagesse très très vivante.
Henri Gougaud, l'humour, l'espièglerie, l'ironie qu'on retrouve dans les folles histoires du sage Nasreddin, c'est l'un des ingrédients essentiels du conte, l'humour.
L'humour, pas forcément. Il y a des contes qui sont quand même des grands. Les contes merveilleux, ils sont pas spécialement drôles, ils sont beaux. Je dirais que oui, l'humour dans le cas de Nasreddin, il permet de changer de fenêtre. Voilà, c'est par là que oui, c'est ça. On regarde la réalité ou les apparences. Il y a beaucoup de contes arabes en particulier qui parle de ça, d'un sultan qui ouvre une fenêtre et qui voit sa ville qui brûle, puis qui en ouvre une autre et qui voit un paysage tout à fait différent. Bref, voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les maîtres soufis, vous savez, vous connaissez, bon, les maîtres soufis, ils utilisent beaucoup les contes de Moulay Nasreddin, et ce qu'ils disent, ce que j'ai entendu dire par Idriss Shah, qui est un grand amateur de contes aussi, c'est que, comment dire, on peut, un maître conteur, à quoi on reconnaît un maître conteur? On reconnaît un maître conteur au fait qu'il sait raconter l'histoire juste à la personne juste, au moment juste. Et c'est-à-dire que s'il sait faire ça, bon, il est un maître conteur, mais la vie de la personne qui entend le conte peut changer. Et c'est souvent un conte de Moulay Nasreddin qui est le... Moi, ça m'est arrivé comme ça, en tout cas.
C'est une rencontre entre un texte, une personne qui raconte et une personne qui écoute.
Voilà, moi, Idriss Shah m'a raconté un conte à un moment de ma vie. Enfin, il l'a raconté. Il y avait d'autres personnes autour. Qui est l'histoire de Moulay Nasreddin qui cherche ses clés dans la lumière du réverbère. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Bon.
Peut-être la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas.
Moulay Nasreddin a perdu ses clés, donc il y a un unique réverbère sur la place du village, et donc on le voit là, il est accroupi et il cherche ses clés. Et il y a un voisin qui passe, il dit « qu'est-ce que tu fais ?»« Eh ben, j'ai perdu mes clés, je les cherche. »« Bon, ben, dit l'autre, je vais t'aider. » Et il l'aide, et puis il trouve pas. Et à force, le voisin dit à Nasreddin, il dit « mais tu es sûr que tu les as perdus là ? Parce que sinon, on les verrait quand même. » Et Nasreddin lui dit « mais non, je les ai pas perdus là, je les ai perdus dans les buissons, là, derrière les maisons, mais simplement je cherche là, parce que là, il y a de la lumière. » Voilà. Et quand il a raconté ça, je me suis dit « mais attends, depuis 20 ans tu fais ça, tu cherches là où il y a de la lumière. »
Allez, dans quelques instants, Henri Gougou nous racontera un ou deux contes. En attendant, il est l'heure de retrouver Éric Libiot et ses choses presque vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libiot.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Élie de Caxton, à Lille.
Non.
C'est un petit village du Québec, là où habite le conteur Fred Pellerin.
Pour s'y rendre,
vous prenez l'autoroute 40 de Montréal, vous sortez à la sortie 166, puis vous tournez à droite et à gauche et à gauche et à droite, en ayant à l'esprit le point final de Pellerin lui-même. Quand vous êtes perdu, vous êtes arrivé. Fred Pellerin est devenu conteur grâce à sa grand-mère qui était contente. Contente comme un participe présent pour raconter le passé. Ce sont des histoires de village et du monde sans qu'on sache vraiment où elles sont nées. Alors je ne sais pas non plus si vous connaissez Pougnérisson, Ali.
Non.
C'est un petit village des Deux-Sèvres en France, village d'adoption du conteur Yannick Jolin, où a eu lieu le Big Bang mythologique et où on a découvert le minerai d'histoire.
Ouais.
Ainsi, Yannick Jolin a-t-il baptisé Pougnérisson le nombril du monde, lieu de naissance de toutes les histoires. Yannick Jolin est devenu conteur en allant collecter dans sa région de Vendée des histoires auprès de ses voisins alentour, des histoires de tous les jours qu'il transforme en histoires de tous les temps. Ce sont des histoires de village et du monde sans qu'on sache vraiment où elles sont nées. Je ne sais pas non plus, Ali, si vous connaissez Ville-Moustache.
Non.
C'est un petit village à 4 km de Carcassonne, là où est né Henri Gougaud. Le village s'appelle en fait Ville-Moustossou, mais qu'importe, Ville-Moustache lui va au poil. Surtout parce qu'il suffit qu'un conteur dise « il était une fois à Ville-Moustache » pour que tout le monde soit suspendu à ses lèvres. Henri Gougaud est un conteur éclectique qui fait des étincelles et pour qui, il l'écrit dans son livre, l'importance d'une parole ne saurait être mesurée au bruit qu'elle fait à nos oreilles, mais à ce qu'elle s'est éveillée dans le silence de nos cœurs. Henri Gougaud se dit passeur, c'est vrai. Il est passeur parce qu'il est frère du monde. Il raconte des histoires qui se passent dans un taxi, dans un village, dans la France inter, et par-delà les montagnes et les déserts sans qu'on sache vraiment où elles sont nées. On ne sait pas d'où viennent les contes parce qu'ils n'ont ni faire part de naissance, ni avis de décès. Ils sont là et plus le temps passe, plus ils sont vivants. Les contes sont à tout le monde, il faut aller les chercher, les emprunter, mais il ne faut pas les garder pour soi, les contes sont à tout le monde. Il faut les dire, il faut les faire vivre et il faut savoir rendre des comptes pour que d'autres s'en saisissent. Toutes ces histoires ont un pouvoir particulier. Pour comprendre ce pouvoir, il faut avoir à l'esprit cette anecdote arrivée à l'écrivain Blaise Cendrars, auteur notamment du poème « La proue du Transsibérien ». Un ami qui lui reprochait de décrire le Transsibérien sans jamais y être monté, Cendrars lui a répondu « Mais qu'est-ce que ça peut faire puisque je te l'ai fait prendre ?» Le conte possède bien ce pouvoir de redessiner le monde et les imaginaires. Comptez, bon, on va pas en faire un fromage tout de même, disent les écrits qui aiment tout, que soit noir ou blanc. Eh bien si, un conteur, ça se respecte, ça se caresse, dans le sens du poil de moustache. Un conteur, ça se choix, et il faut en avoir chez soi. Moi, j'ai fait un choix, et en haut du podium, il y a un trio que je lis et que j'écoute régulièrement. Henri Gougaud, Yannick Jolin, Fred Pellerin. Et vous pouvez, vous aussi, leur prêter une oreille qu'ils vous rendront assurément. Ce trio-là est très haut, ils sont bien trois. Le compte est bon.
La chronique d'Éric Libio, Henri Gougaud.
Ouais, ben, c'est sympa.
Il peut être sympa. Il peut être
non,
sympa.
Mais voilà, ce sont tous les deux sont des amis, donc je me trouve en très bonne compagnie, quoi.
Dorothée Barma.
Il faudra aller voir notamment Fred Pellerin sur scène. Moi, j'en ai un souvenir absolument émerveillé. Ce sont toujours des spectacles éblouissants qui vous embarquent à des milliards de kilomètres.
Dans un instant, un ou deux contes, peut-être trois ou quatre, racontés par Henri Gougaud.
On verra.
On verra. On a le temps.
Écoutez The Black Keys, Crawling Kingsnake.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et on s'intéresse cet après-midi à la sagesse des contes. Martine de Toulouse nous écrit « J'ai 69 ans et dans les années 60, Henri Gougaud intervenait dans les comités d'entreprise. J'avais 12 ans et nous avons assisté à une soirée avec Monsieur Gougaud, donc, et c'était extraordinaire. » Voilà, témoignage de Martine. Vous en souvenez pas ?
Non.
Mais elle se souvient de vous, en tout cas, Henri Gougaud. Clara est avec nous. Bonjour Clara, bienvenue.
Bonjour, merci.
Nous sommes ravis de vous avoir. Quel est votre témoignage, Clara ?
Oui, alors, moi je suis enseignante en école primaire auprès d'élèves de CM1, CM2. Et je pratique le cercle de contes après avoir été formée par Suzy Platiel. qui est ethnolinguiste africaniste aujourd'hui à la retraite, qui travaille pour le CNRS et qui a longtemps travaillé en Afrique, et qui avait remarqué que le conte en Afrique, dans les tribus africaines, notamment au Burkina Faso, était utilisé aussi pour apprendre à parler aux enfants, en fait, pour régler des conflits et pour apprendre à parler aux enfants. Et elle a pratiqué ça après dans les années 80 en France, et puis il y a quelques années, on s'est formé avec elle. Et ce que je remarque, moi, en classe, c'est que pendant ces moments de cercle de conte où il n'y a aucun support, les enfants racontent vraiment de mémoire les contes qu'ils ont appris, eh bien, il y a énormément de tolérance entre eux. Il y a beaucoup de patience, ça veut dire qu'un enfant peut raconter pendant 10-15 minutes un conte qu'ils connaissent, une version par contre qu'ils ne connaissent pas, avec quelques erreurs peut-être. Et ils vont vraiment dans cette tolérance, ce respect de ne pas intervenir, de ne pas couper la parole à celui qui conte. Ça, c'est vraiment chouette de regarder et d'observer ce comportement chez des élèves parfois qui ont des troubles du comportement, qui peuvent être vraiment vraiment difficiles en classe. Et puis, il y a aussi un apprentissage du vocabulaire très riche au sein du conte qui vient se voir en production d'écrit. Mmh. Parce que nous, à l'école, on doit enseigner aussi à écrire. Et en fait, le conte est un bon support pour l'apprentissage du vocabulaire, en fait. Et on voit des tournures qui arrivent en production d'écrit grâce à ces moments de conte.
Henri Gougo.
Oui.
Sur le témoignage de Clara. Sur les vertus éducatives du conte.
Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est très juste ce qu'elle dit, mais peut-être, je sais pas pourquoi on limite l'influence du conte le plus souvent aux enfants. Mmh. Ça fait du bien aux enfants, c'est vrai. Ça leur ouvre des horizons. Moi, j'ai des expériences faites avec des classes de scolaires. Enfin, ça leur ouvre les portes sur la vie. Les contes. Bon, mais pourquoi que les enfants? On ne parle de contes que quand on parle des enfants en général. Moi, je milite pas, mais enfin, je défends l'idée autant que je peux de non seulement de l'universalité des contes, que les contes sont à tout le monde, voilà que
les contes nous aident aussi nous autres adultes à devenir
oui,
soi.
C'est de la littérature universelle.
Exactement. Merci beaucoup Clara de nous avoir appelé. Alors en guise de conclusion provisoire, auriez-vous la gentillesse de nous lire un ou deux contes, Henri Gougo?
Non, mais je vais vous raconter finalement un conte qui vient de me venir. Là, j'ai porté des bouquins par sécurité, mais je vais pas m'en servir. Simplement, c'est l'histoire d'un homme qui vivait. Je crois que c'est une histoire juive. Il vivait au ghetto de Prague. Il s'appelait Jakub. Et Jakub était amoureux du monde. Il était amoureux des gens. Il était, lui, heureux de vivre parce que lui, il avait rencontré les contes, les histoires. Et ces histoires-là, qui le rendaient heureux, il avait envie de les partager avec des gens. C'est-à-dire qu'il s'est dit un jour, je vois les gens tristes, sombres, malheureux, peut-être si je leur raconte des histoires, si je leur raconte des contes, leur vie va s'éclairer, ils vont être, heureux. Et il s'est dit, voilà, je vais essayer. Et il s'est planté dans le jardin public du ghetto de Prague, droit sur un banc, et il s'est mis à raconter des histoires pour changer le monde, des histoires pour rendre les gens heureux. Évidemment, il y a quelques personnes qui se sont arrêtées devant lui pour l'écouter, pas beaucoup, puis qui ont hoché la tête, qui ont dit bon, il va pas bien. Enfin bon, ils sont passés. Le premier jour n'a pas été un triomphe, mais enfin, il s'est dit, peut-être en insistant, je vais y arriver. Le deuxième jour a été une catastrophe, il y a juste un gosse et un chien qui se sont attardés un moment à l'écouter, personne, voilà. Et puis, au fil des jours, comme il continuait de raconter comme ça, les gens se sont habitués à lui, c'était le fou du ghetto, quoi. Personne ne l'écoutait, évidemment. Et un jour, il y a un enfant qui est venu le tirer par la manche. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Jakub lui a dit, tu vois, je raconte des histoires. Mais pourquoi tu racontes des histoires? Tu vois bien, personne t'écoute. Et il dit, ouais, c'est vrai, personne m'écoute, mais voilà, je raconte, j'ai voulu changer le monde avec mes histoires, voilà. Et l'enfant lui a dit, mais tu vois bien que t'as rien changé du tout, alors pourquoi tu continues? Et Yacoub lui a répondu, oui, autrefois je racontais des contes dans l'espoir de changer le monde, mais aujourd'hui si je continue, et je continuerai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas.
Merci beaucoup Henri Gougaud, Ilios Kotsou et Dorothée Barba. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site et l'appli de France Inter. Demain, pourquoi les faits divers nous fascinent-ils ? Et il est déjà l'heure de retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.
Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, La Sauvageonne. Je suis restée une paysanne.
Déclare Colette à Marie-Claire en 1940. Un mythe de plus créé par l'écrivain, ses saints sauveurs empuisés, son Combré, son village natal, ses souvenirs d'enfance, sa maison fabuleuse, son école, ses promenades.
C'est une maison de village.
Colette.
Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils.
Colette a immortalisé Saint-Sauveur dans le Montigny de Claudine à l'école, puis dans la maison de Claudine, hommage à ses racines terriennes. Elle prit soin de conserver son accent bourguignon pour entretenir son image de provinciale. Ruinée, ses parents durent quitter la belle maison du premier mari de Sido à Saint-Sauveur, avec son double perron, ses deux jardins, où Colette avait passé les 18 premières années de sa vie. On s'installa à Châtillon-sur-Loing, où Achille, le frère aîné, s'était établi comme médecin, dans une maison, dira Colette.
Si petite et si modeste, si différente de la large maison natale de Saint-Sauveur.
Colette revint à Saint-Sauveur avec Willy en 1895 pour la distribution des prix. Cette visite fut le prétexte de la rédaction de ses souvenirs, qui devinrent Claudine à l'école. Puis avec Bertrand de Jouvenel, en 1921, la visite fut cette fois à l'origine de la maison de Claudine. Elle passa par Saint-Sauveur en juin 1925, en voiture, au retour du midi avec Maurice Goudquet, qui deviendra son troisième mari.
« J'ai vu la glycine antique enlacée à la grille de ma maison de Saint-Sauveur »,
écrit-elle à Marguerite Moreno. La maison, dont Achille avait hérité, fut vendue à un industriel soyeux de Lyon qui en offrit l'usufruit à Colette. Elle put alors y rentrer.
33 ans. Songez donc. 33 ans que je n'avais revu ni l'intérieur de la maison, ni le jardin. Une émotion si grande, une telle impression de temps aboli.
Confie-t-elle à une amie. Mais elle ne renouvela pas l'expérience et mit en location sa maison, qui était pour elle un paradis perdu. Dans le premier livre de souvenirs, La maison de Claudine, Colette s'identifie au personnage qu'elle a créé il y a plus de 20 ans et donne une épaisseur légendaire à sa maison natale, enrichit le folklore de la fille amoureuse de la campagne, de la nature, des bois et des champs, des animaux. C'est autour des sens, en premier lieu de l'odorat, que sa mémoire s'ordonne.
Une odeur de gazon écrasé traîne sur la pelouse non fauchée, épaisse, que les jeux, comme une lourde grêle, ont versée en tous sens.
Elle raconte ainsi son bonheur à retrouver sa maison au retour d'un séjour à Paris quand elle a 16 ans.
Comme si je les découvrais ensemble, je saluais inséparables ma mère, le jardin et la ronde des bêtes.
La maison de Colette restera toujours attachée à ses odeurs.
L'attention d'un enfant obéit au plus averti de ses sens. Déjà le mien était l'odorat. Ma mère venait à peine de prononcer le mot « lessive » que je croyais respirer la douceâtre odeur des cendres répartie sur le drap de chanvre qui couvrait le grand cuveau dans la buanderie.
Colette pense à travers ses sens.
Paul Géraldi.
Elle pensait à travers ses narines, à travers son oreille. Elle n'était que ça, Colette. Quand nous nous promenions ensemble dans la forêt, tout d'un coup, elle s'arrêtait. Elle disait, arrête-toi, tais-toi, tu ne sens pas ? Quoi donc ? Le fenouil, comme une corde tendue.
Après avoir fait entrer sa maison et son village de Saint-Sauveur empuisés dans la littérature, elle s'en était éloignée dans la réalité pour s'attacher à d'autres maisons en Bretagne, dans le Midi. Mais cette maison-là reste une fable. Parmi toutes les maisons d'écrivains en France, celle de Colette est l'une des plus attrayantes. La visite est désormais possible et recommandée après avoir lu La maison de Claudine et Sido.
Merci beaucoup Antoine Compagnon.